Voilà, bonjour à tous. Alors, j'aimerais qu'on lise Acte 2, versets 1 et 2. Ça a été présent jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas si le thème de ce message a déjà été prêché au cours des dernières années, mais voilà, c'est en tout cas ce que j'avais sur le cœur et j'aimerais vous lire ces deux versets tout simples que tout le monde à peu près, je pense, connaît. Acte 2, versets 1 et 2. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Seigneur, je te remets ce temps entre tes mains et je te demande que, à chacun de nous, tu ouvres notre intelligence afin de pouvoir comprendre tes Écritures comme il l'est dit dans Luc 24 lorsque tu es encore avec les disciples avant que tu repartes. Et vraiment, aide-nous à ce que ces paroles qui viennent de toi, qui sont inspirées de l'Esprit, eh bien, entrent au plus profond de nous afin que nous mettions en pratique cela. Car tu compares celui qui entend la parole de Dieu et qui ne la pratique pas à un fou qui construit une maison sur le sable. Et Seigneur, aide-nous à construire notre maison, nos maisons respectives, individuelles, sur le roc qu'est ta parole, en la mettant en pratique. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de ton assistance. Amen. La prédication que je vous apporte aujourd'hui s'intitule tout simplement « Tous ensemble ». Tous ensemble, puisque voilà, je reprends ce terme qui apparaît dans le premier verset. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon message est le suivant. Il y a de la puissance dans l'unité. Il y a de la puissance dans l'unité. Alors, juste avant de poursuivre, je précise que unité, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, unité ne veut pas dire uniformité, n'est-ce pas? Nous avons tous nos différentes manières d'exprimer notre foi dans nos assemblées. Néanmoins, nous sommes appelés à être unis. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Nous sommes appelés à être unis parce que nous sommes le corps de Christ et donc nous avons en commun Jésus qui est la tête de ce corps. Et je suis persuadé que notre présence ici va avoir et a eu, mais va avoir des répercussions spirituelles dans la région. Est-ce que vous le croyez également? Amen. Notre présence ici avec différentes communautés protestantes, eh bien, va enclencher des nouvelles bénédictions. Il y en a toujours. Dieu amène toujours de nouvelles bénédictions. Et le fait d'être ensemble, ça va faire quelque chose. Alors, de quelle manière? Je n'en ai aucune idée. Nous laissons ce travail à Dieu. Il est souverain. Mais peu importe, là où le peuple de Dieu se rassemble, là est la bénédiction. Et nous voyons ce principe de bénédiction dans l'unité dans un passage qui a été évoqué, Matthieu 18, verset 20. Jésus dit, « En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes plus que deux ou trois. Amen. Amen. Donc vraiment, Jésus est au milieu de nous, par son esprit. Vous savez, nous le voyons bien sûr pas avec nos yeux humains, mais par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Jésus. Jésus marche au milieu de nous, il marche au milieu des rangs, et peut-être même actuellement, et déjà depuis le début du culte, depuis la présidente, l'introduction, la louange, eh bien, Jésus guérit certaines choses en nous. Jésus fortifie notre foi, parce que vous êtes d'accord que ce n'est pas toujours facile d'être plein de foi et d'être toujours victorieux, n'est-ce pas? Moi, le premier, des fois, voilà, je suis découragé par certaines montagnes, parce que je les vois comme des montagnes, alors qu'il faut avoir les yeux sur Dieu, et dès lors, les montagnes ne sont plus si importantes que cela, même si elles sont là. Amen. Jésus dit encore quelque chose d'autre juste avant ce passage de Matthieu 18, 20. Il dit au verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, leur sera accordé par notre Père Céleste. » C'est ce qu'il dit juste avant que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de nous. Et donc, dans le tous ensemble, mes amis, il y a la notion d'accord. La notion d'accord. Si deux d'entre vous
vous accordez sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela vous sera accordé par mon Père céleste. Alors j'ai regardé la définition selon le petit Robert du mot accord. C'est un état qui résulte d'une communauté ou d'une conformité de pensée, de sentiment. Et ça m'a amené naturellement à Philippiens 2, versets 1 et 2. Écoutez bien ces paroles. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Vous verrez, si vous lisez à la maison, chaque mini-phrase divisée par des virgules, séparée par des virgules, ont une importance immense. S'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. En plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ça, c'est l'héritage que Jésus nous a laissé et nous célébrons tous Jésus. Nous glorifions tous Jésus. Et je retiendrai de ce passage que pour vivre en plein accord, en ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée, il faut qu'il y ait une communion de l'esprit. Il faut qu'il y ait une communion de l'esprit. Et c'est justement ce qui est présent dans le passage des Actes que nous avons lu en préambule. Donc, il est dit, premier verset, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Alors, qui sont-ils? De qui parle-t-on? On parle des 12 disciples de Jésus, moins Judas, donc 11, plus des femmes comme Marie, la maman de Jésus, les autres femmes qui s'étaient trouvées au tombeau vide, les frères de Jésus. Alors, je ne me prononcerai pas parce qu'il y a un débat là-dessus sur le degré de filiation qui liait ses frères à Jésus, mais il est marqué dans la parole, les frères de Jésus. Et puis, certainement, il n'est pas spécifié, mais certainement, d'autres chrétiens. Et donc, au total, ils étaient environ 120. Alors, où étaient-ils? Vous le savez, ils étaient où? Dans la chambre haute. Hein? Dans la chambre haute. Alors, une chambre haute en Orient, C'était une sorte de petit pavillon, et j'imagine qu'il y en a encore aujourd'hui, un petit pavillon qui est situé sur le toit plat d'une maison. Vous voyez bien, les maisons en Orient sont généralement plates, le toit est bien plat. Et c'était un lieu où pouvait souffler une légère brise. Une légère brise. Et tiens, c'est intéressant, puisque dans Acte 2, eh bien, il y a une brise, et même plus qu'une brise, ça devient un vent violent, n'est-ce pas? Mais dans cette chambre haute en Orient, en l'occurrence ici au Proche-Orient, eh bien, les croyants allaient monter dans la chambre haute pour prier, pour lire la parole. Donc c'était un lieu de méditation, et donc ce n'est pas par hasard que les 120 étaient dans la chambre haute pour prier le Seigneur. Et nous ne savons pas exactement où se trouvait cette chambre haute, dans quelle maison exactement. Ce qu'on sait, c'est que ça se trouvait à Jérusalem. Car Jésus dit dans Luc 24, verset 49, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et donc, en l'occurrence, Jésus fait une claire allusion au baptême dans l'Esprit, baptême dans l'Esprit Saint. Et donc, Jésus demande à ses disciples de demeurer, de rester dans ce lieu, dans cette ville, car une bénédiction va arriver. Alors, notez que Jésus ne dit pas « quant à toi ». Reste dans la ville de Jérusalem. Ou il ne dit pas « quant à vous, chacun de votre côté, de manière individuelle ». Restez à Jérusalem. Non, c'est un vous collectif, un vous rassembleur, un vous unitaire. Et non seulement Jésus dit que pour recevoir la bénédiction, il faut rester dans le lieu, et ça c'est un aspect très important pour nous les chrétiens, l'aspect, la notion de demeurer, la notion de persévérer, c'est toutes des choses qui ne sont pas naturelles, hein, qu'on doit travailler, qu'on n'aime pas forcément faire. La notion d'obéir, pas toujours facile, n'est-ce pas? Et puis la notion, surtout, la notion d'attendre. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment attendre? Qui pourraient attendre? Oui, super. Je ne peux pas unir mon doigt comme ça avec le tien. Je n'aime pas attendre. Quand je veux quelque chose, je le veux maintenant. Et je me rappelle à l'époque, justement, quand je désirais le baptême dans le Saint-Esprit, ben je le voulais maintenant, tout de suite, là, Seigneur, allez. Mais avec Dieu, il agit pas, il réagit pas au claquement de doigts, n'est-ce pas? Et à quelque part, tant mieux. Hein, parce que peut-être que, bon, pour le Saint-Esprit, c'est quelque chose de bien, le baptême dans le Saint-Esprit, mais j'ai eu des volontés, j'ai eu des désirs dans ma vie qui, heureusement, n'ont pas été réalisés. Et je pense que c'est le cas pour chacun de nous. On pense toujours que c'est juste hein, quand on souhaite quelque chose. Mais Dieu est omniscient et il sait exactement ce qui est bien pour chacun de nous. Donc Jésus, il va bien sûr, il nous dit de demeurer, de persévérer, d'attendre, mais il dit quelque chose d'autre. Il dit que, que la bénédiction de l'effusion de l'Esprit, en l'occurrence, hein, dans ce passage, n'est possible qu'au travers de l'unité. Ça, c'est très important. Alors, je ne veux pas généraliser. Hein. Bien sûr qu'il y a des bénédictions de Dieu qui peuvent arriver de manière individuelle. Mais là, je parle de ce passage précis où il est conditionnel que les chrétiens, ces chrétiens en tout cas, les 120, soient ensemble pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est très important que nous saisissions ce point. Il était important, c'était une condition, l'unité, était une condition pour la réception de la bénédiction divine. Et donc, après que Jésus s'en soit allé s'asseoir à la droite du Père, donc au moment de l'ascension que nous allons célébrer dans 4 jours seulement, il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 14, « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Tous persévéraient d'un commun accord. Alors maintenant, j'aimerais soulever un point. C'est que l'accord n'est pas quelque chose de naturel. Le commun accord n'est pas quelque chose de naturel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas facile d'être en accord? Ça vous arrive dans les familles? Dans les conseils d'église, dans les assemblées, dans un groupe de louanges, dans différentes choses. On n'est pas entre musiciens, je connais ce monde. Eh bien, on n'est pas toujours d'accord même sur les accords. OK? Et c'est un travail. Hein? C'est un travail et Dieu le sait. Et nous voyons cela, j'aimerais juste relever cela au niveau de des personnes qui étaient présentes dans la chambre haute. Ne croyez pas que ce fut, voyez, un commun accord romantique ou magnifique. Ils étaient heureux, en harmonie, ils se tenaient par la main, ils s'aimaient avec leurs qualités, les défauts. Et même, ils étaient tellement remplis de l'esprit qu'ils ne voyaient même pas le défaut du chrétien d'à côté. Alléluia. Hein? Ne croyez pas à cela. Certes, il y a eu quelque chose de particulier à ce moment-là. Mais pour arriver à ce moment-là, juste un petit... un petit retour en arrière. Les disciples, les 12 disciples à l'époque, hein, quand Judas était encore là, la rivalité entre les disciples. Eh oui, les 12 disciples. Eh bien, tous n'avaient pas le même arrière-plan culturel et social, ce qui est le cas dans nos assemblées, n'est-ce pas? Nous n'avons pas tous la même histoire. Et il est de notoriété publique, c'est relaté dans la Bible, que l'entente entre eux n'était pas toujours parfaite. Et j'aimerais appuyer là-dessus pour ne pas édulcorer ce fameux commun accord. Exemple, après que Jacques et Jean demandent à Jésus d'être assis à sa droite et à sa gauche dans sa gloire, et juste petite parenthèse, mais quel culot, non? Ah, franchement, quel culot! Moi, j'ai plein de défauts, mais je n'ai pas osé faire cette prière à Dieu jusqu'à présent. Je ne sais pas si un jour ça va m'arriver. Mais je veux dire, ils n'avaient pas froid aux yeux, ces deux-là. Hein? Est-ce que quand tu seras parti dans ta gloire, on pourra, nous deux, là, tu vois, Jacques et Jean, toi, lui et moi, juste, là, moi, je le vois bien à la droite et moi, je me vois bien à la gauche. La photo sera parfaite. Là, vous imaginez? C'est... Et alors, qu'est-ce qu'il est dit? Et c'est complètement compréhensible. Et si je figurais dans les dix autres disciples, je serais certainement dans ce cas de figure. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ce qui est, excusez-moi, parfaitement légitime comme réaction. Non, mais attends, les deux qui veulent s'asseoir, ils se partagent la place pour s'asseoir à côté de Jésus, l'alpha et l'oméga. Ben tiens, joli programme. Et il y a également Pierre et le disciple que Jésus aimait. Je ne mentionne pas, je ne nomme exprès pas Jean, car il y a également débat sur l'identité de ce disciple que Jésus aimait. On peut accepter l'idée que ce soit Jean, mais on peut aussi, il y a des arguments pour dire que ce n'était pas Jean. Mais néanmoins, ce dernier, ce disciple que Jésus aimait, s'était permis de poser sa tête sur la poitrine de Jésus et de courir même plus vite que Pierre pour arriver au tombeau, vide. Voyez ? Donc, rivalité, quelques exemples de rivalité entre les disciples. L'incompréhension ensuite de Marie. Marie, aux noces de Cana, Jésus lui dit, « Mais que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y avait une incompréhension, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Et de nouveau, avec ses parents, donc, dont Marie, lorsque Jésus se retrouve dans le temple, alors qu'il n'a que 12 ans, il dit à ses parents, « Mais pourquoi me cherchez-vous ? » Je rappelle juste que les parents savaient depuis 12 ans que c'était bien Jésus, fils de Dieu. Il n'y avait pas de mystère là-dessous. Tout avait été déclaré à Marie. Et il dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et il est dit, « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Et enfin, il y a l'incrédulité des frères de Jésus. Dans Jean 7, verset 5, il est dit, « En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Donc, vous voyez que dans toutes ces personnes qui sont d'un commun accord dans la chambre haute à louer le Seigneur, bien ce sont ces personnes que je viens de vous décrire là. Ces personnes-là se trouvent dans la chambre haute d'un commun accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent à ce moment-là ? Il a nécessité un certain effort, comme je vous l'ai dit auparavant. Un dépassement de soi, spécialement de l'orgueil des uns et des autres. Et cela continue avec nous-mêmes. Soyons francs, n'est-ce pas ? Nous avons ce combat entre l'esprit et la chair. Et vraisemblablement que les 10 jours entre l'ascension de Jésus et l'effusion de son esprit ne furent pas de trop pour un travail de réconciliation, de pardon, d'accordage comme entre instruments de musique. Et peu avant que Jésus reparte, donc nous sommes dans ce moment-là, peu avant que Jésus reparte s'asseoir à la droite de Dieu le Père, dans Jean 20, versets 22 et 23, il dit, « Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Verset 23, « Ceux à qui vous pardonnez, » tout de suite, il lit le pardon à l'esprit, « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » L'esprit est soufflé sur les disciples. Jésus parle immédiatement du pardon. Jésus s'en va et donc il y a 10 jours. Alors 10 jours pour nous, 10 jours parce que nous le savons. Sachez qu'eux-mêmes, dans le contexte, ne savaient pas qu'au bout de 10 jours, il y aurait l'effusion de l'esprit. Ils n'avaient aucune idée de combien de temps ça allait durer. Mais il y a eu donc ces 10 jours où l'esprit d'unité, d'accord, travailla les 120 disciples dans cette chambre haute. Et donc, par conséquent, la bénédiction arriva. Et je conclus, tous ensemble, c'est ce que Jésus nous demande de faire. Tel qu'il l'a été sur cette terre avec Dieu le Père. Dans Jean 10, verset 30, il dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Le Père et moi, nous sommes un. De la même manière, tout en conservant nos spécificités, soyons tous unis, tous ensemble avec Christ. Être ensemble, c'est faire corps, n'est-ce pas ? Nous utilisons des fois cette expression, faire corps. Être ensemble, c'est faire corps. Or, nous sommes tous le corps de Christ, avec toutes nos spécificités, de la manière de louer le Seigneur, de la manière de faire la Sainte Cène, de la manière de prier, de la manière de prêcher. Amen. Dieu est varié. Dieu est multicolore. On ne sait pas de quelle race, de quelle couleur est Dieu. Dieu, il est au-delà de ça. Il aime la variété, mais il aime l'unité dans la variété, ou la variété dans l'unité. Unis par l'Esprit de Jésus, afin, écoutez bien, d'être un témoignage. un témoignage. Nous sommes appelés, mes amis, à être un témoignage dans le pays de Gex. Et je veux terminer par cette exhortation de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Écoutez bien. Frères et sœurs, imaginez que Paul est là et il vous dit cela. Frères et sœurs, amis gessiens, chrétiens de Gex, je vous supplie, pas par le nom de n'importe qui, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée, tous ensemble.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton
Je lirai dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, les versets 12 à 14. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Que par ce repas que nous allons prendre, nous puissions nous souvenir de l'amour sans limite de Dieu manifesté en Jésus-Christ, afin que nous puissions, à notre tour, aimer, aimer de son amour. Que l'amour de Dieu crée en nous l'unité, l'unité dans nos différentes communautés et l'unité entre nos différentes communautés. Pour clore ce repas, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce repas que nous avons pu partager tous ensemble en souvenir de ton immense amour pour nous en Jésus-Christ. Fais naître ou renaître en nous la foi, l'espérance et l'amour qui viennent de toi, afin que nos vies soient illuminées et rayonnantes de ta lumière. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Il est bon de louer le Seigneur. Nous avons chanté, nous avons écouté sa parole, nous avons communié avec le pain, le vin, mais ce n'est pas encore fini. Nous pouvons aussi offrir notre louange par nos dons, ce qu'on appelle l'offrande. Et donc c'est le moment de l'offrande. Nous voulons encore continuer à nous offrir tout entier à Dieu. Et nous vous proposons, la pastorale vous propose cette année, comme d'habitude, une partie de l'offrande serait destinée à ceux qui sont au loin et une autre partie à ceux qui sont tout près. Donc je vais vous parler d'abord et vous présenter une œuvre, une action qui est au loin. Il s'agit de l'association Espoir Mondial, dont je fais partie. C'est une organisation d'aide humanitaire dont le but est d'aider les villages les plus isolés du monde à sortir de la pauvreté en s'appuyant sur leurs propres ressources, c'est-à-dire en découvrant les moyens matériels et humains locaux. Espoir Mondial est affilié au réseau international de Global Hope Network, qui a son siège à Genève et qui travaille dans une vingtaine de pays. Il a aussi des partenaires avec qui il est en lien dans de nombreux autres pays du monde. Espoir Mondial n'est pas une mission chrétienne, mais son fondateur et tous les responsables sont des chrétiens engagés qui veulent se mettre au service des plus pauvres et des plus démunis au nom de leur foi en Jésus-Christ et des valeurs chrétiennes. Et le principal moyen utilisé pour aider ces villages, souvent les plus reculés, c'est dans le développement et de proposer une formation appelée « Programme de soutien au développement local ». Cette formation encourage les populations à devenir autonomes dans 5 domaines clés. 5 domaines presque évidents, donc l'eau, surtout l'accessibilité à l'eau potable, l'alimentation, c'est-à-dire avec des cultures, encourageant les cultures locales, la santé, l'hygiène, la prévention des maladies infectieuses notamment, l'éducation des enfants avec un accent sur l'accès égalitaire pour tous les enfants et l'augmentation des revenus par le développement de micro-entreprises. Cette formation a fait ses preuves un peu partout dans le monde et est aujourd'hui utilisée par de nombreuses associations humanitaires. Actuellement, notre représentant en Afrique occidentale, Martin Zatanda, nous dit qu'il a reçu plusieurs demandes pour cette formation au développement local au Maroc et en Mauritanie. En Mauritanie, deux pays où la vie dans les villages a peu changé depuis des siècles et où les besoins en eau, en nourriture, en santé, en général bien-être, sont énormes. Donc votre offrande, ou une partie de l'offrande, sera destinée au financement de projets de formation dans ces deux pays. Le but est de faire en sorte que chaque village devienne autonome, c'est-à-dire autosuffisant, en l'espace de 5 ans. Donc ce n'est pas de l'aide simplement, c'est vraiment une aide au développement. Votre don sera comme une graine que vous plantez, ou comme un catalyseur qui mettra en marche ces villages, ces peuples, et qui va aider ces projets de formation à voir le jour. Je vous remercie de votre générosité. Et maintenant, Philippe va présenter l'offrande, la destination de l'offrande au prêt.
Alors, je serai plus bref pour vous parler de l'offrande qui sera utilisée plus localement, parce qu'on a parfois dans la vie des bonnes habitudes. Puis quand on a une bonne habitude, c'est toujours intéressant de la garder. Alors, ça fait maintenant quelques années que, par le biais de la pastorale, les différentes églises protestantes et évangéliques proposent aux maisons de retraite des calendriers. Un calendrier sur lequel il y a pour chaque jour un verset biblique. Et c'est intéressant de les présenter, de les proposer aux maisons de retraite, parce que ça permet comme ça aux personnes qui sont dans la dernière étape de leur vie d'avoir un accès à l'Évangile, à la parole de Dieu et au message qui est contenu dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Donc pour le coup, la moitié de ce qui sera récolté dans l'offrande de ce matin va être utilisée tout près et la deuxième moitié sera utilisée au loin. Merci beaucoup pour votre générosité.
Voilà un chant de victoire, de proclamation. À toi la gloire, au ressuscité.
Bonjour à tous, mais avant qu'on parte, j'aurais aimé que quelqu'un que j'aime bien et un groupe qui est important pour le monde entier c'est le président des Gédéons du groupe de Genève. Les Gédéons, c'est ceux qui distribuent le Nouveau Testament dans les hôtels, aux écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, etc., etc., dans le monde entier. Et alors, le président du groupe de Genève va vous parler maintenant. Et si quelqu'un se sent appelé à joindre ce groupe, parce qu'on a besoin de ce monde, eh ben, que Dieu lui parle et puis qu'il se joigne à nous. Merci.
Chers frères et sœurs du pays de Gex, je suis très béni aujourd'hui d'être avec vous et de voir une telle unité parmi les protestants du pays de Gex. C'est vraiment une grande joie d'être avec vous et je remercie le Seigneur Jésus de me donner une occasion de plus pour témoigner devant vous d'une unité de chrétiens tout autour de la terre. On va vous montrer quelques diapositives et vous allez voir de vous-même ce que l'amour du Christ, ce que l'unité des chrétiens fait tout autour de la terre pour que les âmes soient sauvées et amenées à Christ. Voilà, vous allez voir différentes diapos avec des distributions de Nouveau Testament qui ont lieu l'année passée, tout autour, dans plusieurs pays. Je m'appelle donc Diego Souter et je suis heureux avec Joël de vous présenter ce magnifique ministère des Gédéons. D'abord un témoignage. Le 24 décembre, après-midi, je voulais sortir de mon bureau pour aller encore faire quelques courses avant que la Migros et la Coop et d'autres magasins ferment pour deux jours. Quand j'ouvre la porte et devant moi, il y a une jeune femme qui souhaite me rencontrer. Et je sais très bien de qui il s'agit. C'est une cliente de mon bureau fiduciaire. Et elle me dit, écoute, j'aimerais juste avant Noël t'apporter quelque chose et te remercier. Alors je la fais rentrer dans mon bureau. Et elle me témoigne qu'elle avait dit oui. Et vous voyez mon sourire, vous voyez ma joie rentrer en moi. Et t'as dit oui à quoi? Et elle m'a dit, bah, tu sais, tu m'as donné un Nouveau Testament il y a quelques temps dans ton bureau. Ce n'était pas la première année que je lui parlais de Jésus. Et elle m'a dit, aujourd'hui, j'ai dit oui et je suis dans la paix. Je voulais te remercier et tout. Elle m'a apporté une jolie bougie, une petite lettre et puis un petit paquet. Et bah, j'étais touché, on a partagé un moment d'évangile, on a prié ensemble. Et le soir, avant d'aller rejoindre Frater Noël, j'ai ouvert la petite lettre et elle souhaitait un joyeux Noël à toute ma famille, à mes enfants. Et puis il y avait le petit cadeau, il y avait en plus la bougie, et j'ai ouvert le petit paquet. Et sur le paquet, c'était une plaque de chocolat, des carrés de chocolat, et le seul mot qui était inscrit dessus, c'était « Renaissance ». Cette dame est d'origine pakistanaise, dans une famille musulmane. Je tairai son nom volontairement parce qu'elle m'a prié de ne jamais en parler pour ne pas avoir d'histoire avec sa famille. J'aurai d'autres témoignages à vous faire, mais j'aimerais vous parler de l'unité qui existe des Gédéons tout autour de la terre. Comme vous êtes unis aujourd'hui, nous sommes ni une église ni une secte, mais nous sommes tous des chrétiens engagés au service du Seigneur pour amener des âmes à Christ. Nous n'avons pas de dénomination. Et cette unité, vous la voyez à travers les images, tous les membres des Gédéons sont de différentes églises. Et avec nos épouses, nous formons une association internationale chrétienne d'hommes d'affaires, de responsables, d'enseignants, de représentants unis dans le service du Seigneur. Nous sommes le prolongement de l'action missionnaire des églises sur toute la terre. Notre seul but est basé sur Ésaïe 55:11, de gagner des âmes à Christ en semant la parole de Dieu. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Nous sommes chargés de semer la parole de Dieu, car comme il est écrit dans Romains 1:16, l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Cet évangile, bien sûr, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui doit être annoncée à tous les peuples, selon Matthieu 24:14. Comment est-ce que nous travaillons? D'abord, nous prions, en tout cas une fois par semaine, tous les jours individuellement. Nous témoignons personnellement, dans mon bureau, en faisant les commissions ou ailleurs. Et nous distribuons, comme l'a dit Joël, la parole de Dieu en votre nom, dans 5 sphères précises de votre région, dans les hôtels, Certains m'ont témoigné qu'ils rencontraient souvent des Nouveaux Testaments dans les hôtels quand ils allaient en vacances ou ailleurs. Et là, j'ai un appel à vous faire. C'est que si vous êtes dans un hôtel et qu'il n'y a pas de Nouveau Testament ou de Bible dans votre chambre, demandez-le à l'hôtelier. Vous ne savez pas si 3 jours après, un Gédéon va passer et sera accueilli, il pourra déposer un Nouveau Testament. Ces Nouveaux Testaments et ces Bibles déposées dans des chambres d'hôtel ont sauvé des vies. On les distribue aussi dans les hôpitaux et les EMS quand c'est encore accessible, et dans les cabinets médicaux, et aux militaires, dans les écoles de recrues, aux membres des forces de police, et aux pompiers, et en prison. Et naturellement, autour des écoles, en tout cas en Suisse, dans beaucoup de pays, nous sommes encore accueillis dans les écoles pour les donner à chaque étudiant. Je l'ai fait il y a encore récemment dans le canton de Vaud, dans une école catholique. Mais ici à Gex, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc on pourra prier peut-être. Et moi j'ai une vision pour ce pays de Gex, comme on l'a eu dans la Haute-Savoie, parce que nous avons commencé à distribuer il y a quelques années en Haute-Savoie, je crois qu'on l'a fait aussi il y a quelques fois ici, mais nous pouvons prier, avoir une vision, que des Gédéons du pays de Gex se lèvent et distribuent un jour des Nouveaux Testaments autour des écoles. C'est possible en France, cela existe. Amen. Depuis octobre 2015, les Gédéons ont commencé à diffuser la Bible complète en 1104 langues, en audio et en vidéo, avec une application à télécharger, et c'est gratuit. J'ai des cartes pour télécharger si vous avez envie de lire pour certaines personnes la Bible ou l'entendre dans votre langue. Je suis à peu près persuadé que vous trouverez, c'est parmi les 1104 langues que nous avons à disposition, votre langue, en plus du français. Dieu, notre Sauveur, lui, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si l'accès à la parole de Dieu est facile chez nous, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, en tout cas pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou à des librairies ou carrément pas accès à la Bible. Et dans plusieurs pays où des distributions massives sont organisées, beaucoup attendent avec joie leur Nouveau Testament. Vous voyez des images, que ce soit en Afrique, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Chine, à Taïwan, même maintenant en Chine, en République populaire de Chine, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Nicaragua, que ce soit au Brésil. Nous avons des hommes et des femmes qui un jour ont dit oui. Alors, comment vous pouvez nous aider? Et je sais que vous pouvez tous avoir ici un APAC pour les Gédéons. Et pour toutes les âmes qui ont besoin encore de connaître l'amour du Christ. D'abord, vous pouvez prier pour notre ministère. Grâce à vos prières, le ministère s'étend à toute la terre et à toutes les âmes. Nous sommes représentés et nous avons des actions de distribution dans 201 pays. Il y en a encore qui sont fermés, mais nous pouvons toujours prier pour qu'ils s'ouvrent, comme la Corée du Nord, comme les pays musulmans. Vous pouvez donc demander à l'hôtelier s'il n'y a pas de Bible ou un Nouveau Testament dans votre chambre, qu'il vous en mette un à disposition, parce que des fois, il les garde à la réception en disant « de toute façon, ça n'intéressera personne ». Mais vous êtes là pour réveiller cette conscience. Voulez-vous travailler pour Jésus-Christ? Devenir son porte-parole. Jésus recrute aujourd'hui des ouvriers pour sa moisson. Joignez-vous à nous dans le ministère en devenant Gédéon. Vous êtes chrétien, un homme d'affaires, profession libérale, un cadre, vous avez des responsabilités, vous êtes enseignant, ancien militaire, vous assumez des responsabilités dans votre profession. Alors viens servir le Seigneur et deviens son porte-parole. Jésus-Christ a besoin pour le salut des âmes de porte-parole. Tous les Nouveaux Testaments ont été apportés et ont été donnés main à la main. C'est ce que j'appelle des porte-paroles du Christ. Il faut porter la parole là où vous n'allez pas en tant que chrétien dans votre église. Dans certains pays, les Gédéons le font avec des brouettes, à charrette, à vélo, par bateau. Chez nous, on a des voitures. Mais aucun facteur ne peut nous remplacer. Alors, nous vous attendons avec votre épouse pour servir le Seigneur. Devenez un ami ou... Alors, une autre chose, si vous ne pouvez pas devenir des Gédéons, vous pouvez devenir un ami ou une amie des Gédéons et vous recevrez des nouvelles des ministères 2 fois par année, soit par email avec une lettre, soit par courrier. Et pour toutes les églises, nous avons commencé au niveau mondial une action qui s'appelle l'action Philippe. L'action Philippe, c'est le Seigneur qui a appelé Philippe à baptiser le représentant de la reine d'Éthiopie. Alors nous organisons des formations à partir de cet automne pour former tout homme, toute femme dans une église à témoigner de l'amour du Christ auprès d'autres personnes. C'est un immense impact qui a commencé en Colombie et qui se propage dans toutes les églises du monde. Vous pouvez aussi, vous ne savez plus quoi offrir à grand-maman, vous ne savez plus quoi offrir à quelqu'un, vous pouvez toujours lui offrir une carte pour son anniversaire, pour un mariage, avec une donation que vous allez faire pour acheter un Nouveau Testament, et vous direz à ce moment-là à cette personne, en ton nom, des âmes ont reçu aujourd'hui un Nouveau Testament. Et grâce à toi, des âmes vont pouvoir connaître la parole du Christ. Donc dans ces cartes qui sont là pour des anniversaires, pour des remerciements, pour des mariages, des naissances ou des décès, vous pouvez faire un don au Gédéon en offrant ne serait-ce qu'un euro, parce qu'un Nouveau Testament, le petit format que vous connaissez ici, coûte environ 1,05 €. Avec 1 euro, vous avez un impact tout autour de la Terre. Les plus grands que vous nous mettons aussi à disposition pour distribuer, en même temps que les calendriers, vous pourrez distribuer des Nouveaux Testaments grand caractère dans les maisons de retraite, gratuitement. Tout ce que vous nous donnez servira à 100% à acheter des Nouveaux Testaments et des Bibles. Ce sont nous qui assumons les frais administratifs avec nos cotisations et de ce que nous donnons volontairement, non seulement de notre temps, mais aussi nous fournissons toute l'infrastructure qu'il y a derrière pour transporter ou amener ces Nouveaux Testaments et ces Bibles. Je termine maintenant juste en vous disant que depuis le début du ministère, qui a été fondé par trois hommes en 1899, la première distribution a eu lieu, donc c'était fondé aux États-Unis par trois hommes, des représentants de commerce. En 1908, nous avons organisé la première distribution de Nouveaux Testaments et de Bibles dans les OCL. À ce jour, nous avons distribué plus que 2 milliards 225 millions de Nouveaux Testaments. Alors, je vous invite aussi par votre don à financer des Nouveaux Testaments. Nous en sommes très reconnaissants parce que c'est grâce aux églises que tout cela fonctionne. Et tout ça, le but, c'est que des autres vous rejoignent sur les bancs des églises. À la sortie du culte, la cruche des Gédéons attend votre don que vous pourrez également effectuer par virement bancaire. On vous remettra un bulletin de versement avec les références. Pour ceux qui le peuvent ou qui le voudront, vous pourrez également faire un legs à l'association des Gédéons. Et avec Joël, nous serons à votre disposition pour recueillir des témoignages et vous parler personnellement. En tout cas, je tiens à vous remercier chaleureusement de nous avoir donné l'occasion, à tous les pasteurs, de témoigner de l'amour de Jésus à travers ce ministère. Et chers amis protestants, j'espère avoir le plaisir de vous revoir lors d'une prochaine visite et je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Juste pour terminer, une parole du Seigneur. J'avais préparé ce matin également Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Aujourd'hui, vous êtes témoins de ces choses à travers les diapositives du service et du ministère que accomplissent les Gédéons. Amen.
Merci beaucoup, Diego. J'espère que ça vous a touché et que quelques-uns sont appelés pour témoigner comme ça. Maintenant, je vous invite à prier le Notre Père tous ensemble. Alors je vous demande de vous lever et de vous tenir la main les uns les autres dans le rang où vous êtes assis. Et nous allons prier une dernière fois notre Seigneur aujourd'hui, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen.
Je vous invite à recevoir la bénédiction de notre Père Céleste. Peut-être pouvez-vous vous lever pour que nous soyons dans la même dynamique. Que l'Éternel te bénisse, toi l'ami, et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Chers amis, allez en paix. Amen. Je vous propose de vous asseoir. J'ai encore quelques annonces. Je voudrais remercier l'action de l'Esprit ce matin. C'est le premier mot qui me vient. Et je le remercie parce que j'ai le sentiment, et je ne suis pas la seule puisque j'ai déjà entendu dans la matinée, que tout a convergé ce matin pour l'unité. Merci. Merci à tous les intervenants. Merci pour la musique. Merci pour les paroles partagées. Merci pour les témoignages. Merci pour les prières. Merci pour tout. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Oui, hein? Et vous croyez qu'on va se retrouver dans un an? Non! Ah, c'est ça la nouvelle du matin. On va se retrouver avant. Car nous allons vous annoncer quelque chose de nouveau. En effet, ça ne va pas être deux fois par an, ça va être une fois par an. Ça ne va pas être une fois par an, ça va être deux fois par an. Mais un petit peu autrement, on va vous inviter au début de l'hiver, début décembre, pour célébrer ensemble le temps de Noël. On ne le fera pas seulement nous, mais le groupe Héritage que nous avons invité viendra faire un concert de Noël. Et nous allons avoir l'occasion de chanter avec eux. Et je peux vous dire que ça bouge aussi. Autrement, mais ça bouge quand même un peu. Ce concert aura lieu le vendredi 7 décembre à l'église de Crossroad Ferney-Voltaire. Nous sommes en relation avec eux. Ils se réjouissent de venir dans la région et de chanter avec nous. Donc on va se retrouver au cœur de l'hiver. Autre petite annonce, on n'a pas trop envie de se séparer, alors on va avoir un petit apéritif tous ensemble qu'on va installer. Et maintenant, pour le bon ordre, nous avons besoin de plusieurs personnes pour nous aider à ranger les chaises, à les mettre en pile, ici le long du mur. Est-ce que c'est par paquet de 12, 15, 15? Et il nous faut des personnes qui se mettent pour faire ces paquets de 15 chaises. Et puis il va y avoir le petit apéritif qui va être servi, c'est le temps où on continue à être ensemble. Et après cela, nous avons besoin de plusieurs personnes pour nous aider à faire le ménage, à ranger les affaires et à tout bien terminer. Et c'est Philippe Bourgeas qui vérifiera à la fin que tout soit fait correctement. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour qui vous êtes. Merci d'avoir osé ce matin.